un autre texte pour avancer dans notre série de méditations sur la prière. Vous pouvez déjà ouvrir avec moi le psaume 65. Nous considérons, évidemment, vous le savez, différentes facettes de la prière. Il y a tellement à connaître quand on prend le temps de se pencher sur les différents textes qui concernent la prière, ses enseignements au sujet de la prière, et puis les différentes prières aussi qui sont formulées dans l'Écriture, notamment dans les psaumes, mais pas que. Et elles nous enseignent beaucoup, elles nous encouragent à de nombreux égards. Ce soir, voilà, vous savez que tous les messages sont en ligne. Vous savez que ça fait un petit moment, mais on regarde des facettes différentes. Ah oui, j'ai eu un petit décalage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vous lirai ce qu'il y a en bas. On lit le psaume 65 et après, on médite ça ensemble. Vous allez voir, il y a beaucoup de bénédictions dans ce psaume. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, mais tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines, de la terre et de la mer, il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Oui, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant des sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont saintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Eh bien, beaucoup de choses. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais dans ce psaume, qui est un psaume de louange, qui est un psaume de reconnaissance et qui encourage à la confiance, ici, c'est David qui a écrit. David écrit ce que j'appelle, moi, à ce moment-là, le meilleur contrat de confiance, le meilleur contrat d'assurance de tous les temps. Et il y a 10 points que je veux partager avec vous. Il y a 10 pensées maîtresses, très courtes à chaque fois. Mais vous allez voir, en réalité, ici, David est en train de balayer tout un panel de bénédictions avec des images. Il est en train de nous dire ce que nous trouvons, ce que nous avons dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu. Il commence ainsi avec confiance. Le mot confiance dans l'hébreu peut être traduit par repos, calme, tranquillité, confiance, assurance aussi. Et avec confiance, avec assurance, on te louera dans Sion. Vous savez, juste un petit point théologique avant qu'on passe à la pratique. Sion, c'est cette colline. Il y a des lieux élevés à Jérusalem. Il y a le Moria, il y a Sion, il y a le Golgotha, etc. Il y a la montagne des Oliviers. Sion est un mont élevé à Jérusalem. C'est le lieu où l'on adorait Dieu. Et très souvent, de la même façon que Éphraïm devient une façon commune de désigner Israël, Sion, par moment, est une façon commune de désigner Jérusalem. C'est comme si, des fois, on dit « Tu vas où à l'église, toi ?»« Ah, mais moi, je vais à la fourmi. » Non, vous n'allez pas à la fourmi, vous venez ici. Mais on a compris. Et en désignant cette rue, vous désignez l'église. C'est juste une façon de parler. Sion est une façon de désigner Jérusalem parce que c'est un mont de Jérusalem et c'était là, c'est un synonyme de louange et d'adoration. Tous les hommes viendront à toi, malheureusement n'est pas à prendre au sens littéral, On sait que malheureusement, tous ne l'accepteront pas. Mais ici, ce qui est important de comprendre, c'est que toutes sortes d'hommes viendront. On sait que malheureusement, tous ne se tourneront pas vers lui, tous ne l'accepteront pas. Mais il y aura toutes sortes d'hommes, comme dit l'Écriture, des hommes de toute langue, de toute race, de toute nation, de toute civilisation, de toute culture, pour former un seul peuple, le peuple de Dieu. Toutes sortes d'hommes, qui que l'on soit. Je préfère ici la parole, parole de vie pour la traduction du verset 3. C'est pas tous les hommes viendront à toi, c'est tous peuvent s'approcher de toi. Tu es le Dieu qui se laisse approcher et qui est accessible par tous, qui que l'on soit, quoi que l'on ait fait, avec confiance, avec repos, avec assurance, avec foi. Quelles sont les raisons? Et David ici va exprimer sous forme d'image 10 raisons. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un contrat de confiance, c'est un contrat d'assurance dans la prière quand on s'approche de Dieu. Les raisons pour lesquelles on s'approche de Dieu avec confiance. Nous sommes sûrs de quoi ? Nous sommes sûrs que nous pouvons, qui que nous soyons, nous approcher de Dieu. Dieu se laisse approcher. Dieu se laisse approcher. Vous avez beaucoup de gens dans ce monde qui ont une certaine position et que vous n'approcherez jamais, ni de près, ni de loin. Si demain, vous aviez un contact privilégié avec un ministre, avec un député en Europe, avec un président, ce serait quand même... Mais le Dieu du ciel, lui, se laisse approcher par n'importe qui. Les gens de ce monde ne se laissent pas approcher. Mais Dieu, lui, se laisse approcher par n'importe qui. Et David est en train de reconnaître déjà ici qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de distinction entre les hommes, pas de distinction entre les pécheurs. Nous avons cette assurance, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, peu importe dans quel état nous sommes, peu importe notre état de progrès, combien de chrétiens, parfois, souvent, malheureusement, encore, quand ils savent, quand ils réalisent qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que Dieu voudrait. Alors que l'Épître aux Hébreux me dit, au lieu de rester en retrait, elle me dit, celui qui a péché, qu'il confesse simplement, et il pardonnera, il effacera les péchés et les iniquités. Le trône de Dieu est devenu un trône de grâce. Je peux m'approcher librement de ce trône de grâce, dit l'Épître aux Hébreux. Message révolutionnaire de l'Épître aux Hébreux. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et de trouver grâce et d'être secouru dans tous vos besoins. L'espoir de trouver en lui, auprès de lui, c'est un psaume de confiance, c'est un psaume de repos, c'est un psaume d'assurance. Je vais considérer tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut faire pour moi. Je m'approche de lui, je m'approche par la prière et le Seigneur invite tous, aucune distinction, aucun favoritisme. Le même cœur pour tous, la même passion pour tous. Je crois qu'il n'y a que en Dieu que l'on trouve cette caractéristique. Amen. Et ça, c'est valable pour n'importe qui que l'on soit. Personne n'en a trop fait. Personne n'est trop sale. Personne n'est trop pécheur. Il y a des églises, malheureusement, où on sélectionne les pécheurs. Il y a des religions dans lesquelles, malheureusement, on sélectionne les gens sur leur mérite, sur leur performance. On classifie les grands péchés, les petits péchés. Avec le Seigneur, il n'y a rien de compliqué. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, en venant mourir sur la croix, a ouvert ses bras d'amour. Il a pris la sainte, la juste colère de Dieu sur lui. Il a été le paratonnerre. Le péché a été jugé, condamné. Jésus a pris cette condamnation sur lui. Il a été fait péché. Et ensuite, il se propose à tous, quels qu'ils soient, peu importe ce qu'ils ont fait. Par la repentance et la foi, venez à moi pour le salut. Venez à moi pour la guérison de vos blessures. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La porte est ouverte à tous. La porte de la grâce est ouverte à tous. Merci Seigneur. L'assurance de pouvoir s'approcher, qui que l'on soit, à n'importe quel moment. L'assurance, il y a des gens qui s'approchent, ils peuvent frapper, mais la porte ne s'ouvre pas, ils ne sont pas reçus. L'assurance d'être reçu et d'être écouté, pas seulement entendu, mais d'être écouté. Ô toi qui écoutes la prière. Jésus, lui, il a connu le rejet, il a connu le mépris, il a été rejeté, il a été abandonné du Père. Pour que moi, qui suis-je ? Pour que toi, chacun d'entre nous, nous ayons ce libre accès. Jésus a été abandonné du Père pour que moi, je ne sois plus jamais abandonné. C'est pas extraordinaire ça quand même? Merci Seigneur. Dieu, lui, il m'écoute. Ça fait tellement mal quand on n'est pas écouté, quand on n'est pas considéré. Ça fait tellement du bien quand quelqu'un s'assoit près de nous et nous écoute. Et le simple fait de s'asseoir, de prendre du temps, d'écouter quelqu'un, ça montre à la personne à quel point elle a de la valeur, à quel point elle est précieuse. Et Dieu, lui, il m'écoute. Combien de gens pensent, combien parfois, même des fois, des chrétiens m'ont dit « Oh, tu sais, non, je ne parle pas de ça au Seigneur parce que le Seigneur, il n'a pas que ça à gérer. » Le Seigneur, je lui dis, je peux lui parler de tout. J'ai un libre accès à chaque minute, à chaque seconde, 24 heures sur 24, n'importe où, n'importe quand. Je lui ouvre mon cœur, je lui parle de tout, je lui demande pas l'autorisation, je le dérange jamais, il est toujours là et il me montre quelle est la valeur. Et David a compris ça bien avant que Jésus vienne, bien avant le tout accompli. David a déjà compris cette valeur qu'il a aux yeux de Dieu, que nous avions aux yeux de Dieu, et cette, à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Merci Seigneur. J'ai l'assurance d'être reçu, d'être écouté, de n'être jamais, jamais abandonné. À quel point, Seigneur, nous sommes considérés. Dieu nous considère attentivement. Dieu nous regarde avec ce regard d'amour, de grâce, de faveur. Et il nous invite parce qu'il nous invite à nous approcher, parce qu'il nous invite, parce qu'il sait qu'il va nous, parce qu'il nous seront reçus et parce qu'il veut nous écouter. Et pourvoir à tous nos besoins. Et David a compris, verset 4, que la chose la plus importante, c'est le pardon. Le premier besoin de tous les êtres humains, le premier besoin qui fait que ma vie avec Dieu va être digne de ce nom, et que je vais entrer dans la vie nouvelle et que je vais continuer à vivre dans la vie nouvelle, c'est l'assurance du pardon. Les iniquités m'accablent, ça c'est le poids du péché. Mais tu pardonneras nos transgressions. La chose la plus importante pour laquelle Dieu nous attend, c'est le pardon. L'évangile, c'est l'évangile du pardon. Si on enlève ça, il ne reste plus rien. Le pardon que je reçois de Dieu, le pardon dans lequel je crois sincèrement, le pardon qui libère mon âme d'un mauvais souvenir, qui libère mon âme de la culpabilité, du poids de mon passé, du poids des fautes. Il pardonne mes iniquités. Il pardonne mes transgressions. Son pardon, c'est pas un pardon qui met mon dossier dans un tiroir, qui pourrait faire en sorte que peut-être ce tiroir, un jour ou l'autre, en fonction de mes performances ou de la façon dont je me comporte ou pas, pourrait être ressorti, que le Seigneur me ressorte le dossier et dise, au fait, il faut qu'on parle de ça. Le pardon de Dieu est un pardon qui efface. Il a absolument tout effacé. Il ne subsiste plus rien. C'est comme si, c'est ça dans la pensée de Dieu. Pardonner, c'est effacer. Il a effacé nos péchés. Il a effacé nos transgressions. Il ne subsiste plus rien. Je suis libre, totalement libre. C'est comme si je n'avais jamais péché. Ça va jusque-là. Comme si je n'avais jamais péché. Et comme il ne subsiste plus rien entre moi et Dieu, ben je peux m'approcher librement. Je m'approche toujours avec une pleine assurance. J'ai l'assurance, pardon, il y a eu un petit décalage à cause du point d'exclamation. J'ai l'assurance de son pardon. J'ai l'assurance de sa miséricorde. Le psaume 130 dit, Seigneur, le pardon et la miséricorde se trouvent toujours auprès de toi en abondance. Merci Seigneur. Voilà ce que je trouve auprès de lui. Tous peuvent s'approcher de toi. L'assurance d'être reçu favorablement à cause de Jésus, l'assurance d'être écouté, l'assurance d'être pardonné pourvu qu'on lui demande pardon. Une fois que l'on est pardonné, il n'y a plus rien. Tout le plan que David est en train de mettre ici derrière des images est limpide. Une fois que l'on est pardonné, il n'y a plus rien qui nous empêche d'accéder à sa présence. Le péché n'étant plus, il n'y a plus rien qui empêche. L'assurance de sa présence, verset 5, ce qui nous permet d'accéder et de demeurer. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Évidemment, choisir, pas au sens de favoritisme, au sens où le Seigneur sait pertinemment que nous l'avons accepté. Et comme nous l'avons accepté, il nous permet, il nous choisit pour entrer dans sa présence sur la base du pardon que nous lui avons demandé. Voilà dans le cadre dans lequel le Seigneur nous dit, David dit, celui que tu choisis, que tu admets en ta présence. Et dans cette présence, nous pouvons habiter, nous pouvons nous installer, demeurer dans tes parvis, langage de l'Ancien Testament, la présence de Dieu, toujours pareil. Nous nous rassasions, c'est-à-dire nous nous nourrissons du bonheur de ta présence, de la sainteté de ton temple. Et nous pouvons commencer à goûter, et j'espère que tous on y goûte, et Dieu veut que nous y goûtions, et que nous y goûtions de plus en plus, et que nous avancions et que nous progressions dans la mesure de sa présence, dans les dimensions de sa présence qui comble, qui remplit, devrais-je même dire par moments et même tellement plus souvent, sa présence qui voudrait envahir nos cœurs, qui veut combler, qui veut envahir nos cœurs. Merci Seigneur, je me rassasie, c'est-à-dire je suis comblé. Quand vous avez bien mangé, vous êtes dans un état de complète satisfaction. Vous êtes rassasié et vous entrez dans une voie de repos tellement bien que même quand on a bien mangé, le repos fait que... Après, on fait un peu ça. Un état de complète satisfaction, rassasié par la présence de Dieu, pour qu'il habite dans tes parvis, pour qu'il s'y installe. La présence de Dieu, ce n'est pas le mardi. La présence de Dieu, ce n'est pas le dimanche. La présence de Dieu, c'est H24. J'ai un accès permanent et il m'autorise, j'ai cet accès libre au Saint des Saints, à la présence même de Dieu. C'est ce que David exprime aussi, on l'a vu dans le psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, ardemment, une tension de l'âme, tendue à l'extrême, ce que je désire plus que tout, ce qui me fait soupirer. Je voudrais habiter dans la maison de Dieu, je voudrais vivre la présence de Dieu en permanence, ce que lui ne pouvait pas. Il savait qu'à cette époque-là, ça ne lui était pas réservé dans le contexte de l'Ancienne Alliance, mais ce qui pour nous est réellement une possibilité maintenant. Nous vivons avec la présence de Dieu, avec toutes les bénédictions qui en découlent. Et puis, l'assurance de sa toute-puissance, parce que Dieu est présent, sa puissance se manifeste. L'assurance de sa toute-puissance, c'est le verset 6, vous pouvez garder vos Bibles ouvertes, hein, sinon vous écoutez, mais sinon on peut les relire au fur et à mesure. « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer, des miracles, des interventions à la hauteur de Dieu, à la hauteur de sa grandeur. » Merci Seigneur. Peu importe, David est en train de comprendre dans son langage imagé, en train de nous dire, peu importe la situation, Dieu n'est jamais dépassé, Dieu n'est jamais déstabilisé, il n'est jamais ébranlé, il n'est même pas surpris par quoi que ce soit. Moi je suis surpris, et plus d'une fois, puis quand les choses me tombent sur le coin du nez, oh, mon Dieu, ça tourne, je me dis, ah, c'est pas... Mais je veux voir les choses dans la perspective de Dieu et pas dans une perspective humaine. Lui, il est souverain, il sait, son royaume est éternel. J'appartiens à ce royaume éternel. Je prie, je loue, je contemple un Dieu qui est assis sur un trône qui est inébranlable. Ni la terre, ni les puissances démoniaques, ni aucune circonstance, aucune situation. Jésus est assis en majesté sur le trône. Et rien, absolument rien, ne peut le déstabiliser. Rien n'ébranle son trône une demi-seconde. Rien ne peut l'inquiéter. Rien ne peut, ne serait-ce que lui faire froncer les sourcils. Plus d'une fois, moi, combien souvent, on me dit des choses, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui répondre à elle? Le Seigneur, il n'est jamais déstabilisé par quoi que ce soit. Il a tout anticipé, il a tout vu venir dans son omniscience et dans sa prescience, il sait d'avance, il n'est jamais surpris, il a déjà les solutions, il a permis parce qu'il savait d'avance, comme on l'a chanté, merci beaucoup, la force et la puissance sont dans sa main, il est mon espoir, il a les véritables solutions entre ses mains, et c'est à cause de lui, à cause de ce qu'il est, parce que je sais qu'il est capable, j'ai sa présence, j'ai l'assurance de sa toute-puissance et j'ai l'assurance aussi moi-même d'être affermi en tout temps et en toutes circonstances. Voilà ce que nous propose aussi David dans le verset 7. Il affermit les montagnes par sa force. C'est une image bien sûr, hein. Il n'y a pas besoin d'affermir le Mont Blanc plus qu'il n'est déjà. Il n'y a pas besoin d'affermir l'Everest plus qu'il n'est déjà. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire David ici dans cette métaphore? Il est en train de nous communiquer une image pour dire que c'est lui, c'est Dieu dans sa grâce, celui qui nous a établis dans sa présence, c'est aussi celui qui nous affermit. C'est lui notre véritable force. C'est sa présence. Tout ça sont des bienfaits qui découlent de sa présence. Sa présence, la libération de sa puissance. Sa présence, ma vie qui est affermie. C'est lui qui me rend plus fort. Sa présence me rend plus fort envers et contre tout. Sa présence me rend plus stable, même dans mes émotions, face aux difficultés, face aux nouvelles, face aux mauvaises nouvelles. Il me rend plus fort, il me rend plus stable, il me rend plus solide, il m'affermit comme les montagnes. Pourquoi ? Parce que les montagnes, ben excusez-moi, mais avant de les déstabiliser, bon courage. Il affermit comme les montagnes, parce que c'est ce qu'il fait en moi, il me tient solide et il m'affermit comme les montagnes sont affermies. Et quand on est dans cette présence, l'assurance de sa puissance, quand on est affermi soi-même envers et contre tout, mais qu'est-ce que vous voulez, David, il a compris le plan, il est logique, il est en train de vous dire avec ça, verset 8, il dit « Comment voulez-vous que je m'inquiète ? J'essaye de m'inquiéter, mais j'y arrive pas. Avant, quand je n'avais pas de révélation de Jésus, il fallait que je fasse un effort pour être paisible et je m'inquiétais pour un oui, pour un non. Maintenant que j'ai la révélation dans mon âme de qui il est et ce qu'il a fait en moi par sa présence, excusez-moi, il faut que je fasse un effort pour m'inquiéter. Parce que ce qui est naturel maintenant, c'est sa paix. Et toi qui écoutes la prière, vu le cheminement que David fait par la prière dans la présence de Dieu avec les bienfaits qui en découlent, on arrive naturellement au verset 8. Il apaise, apaiser la paix. Le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots, qu'est-ce que c'est ça ? On sait très bien que les mers, les flots agités, sont une image, sont un symbole de l'épreuve, de la tempête. Dans la Bible, ces tempêtes sont un symbole d'épreuve, évidemment, de cette épreuve qui vient et qui nous secoue. Mais David ici dit, il apaise, et il y a plusieurs facettes de la paix de Dieu. Il existe trois facettes, David ne dit pas tout ici, j'élargis un petit peu. Il y a trois facettes de la paix de Dieu dans nos vies. Cette paix lorsque Dieu calme la tempête, quand Dieu parle et que des situations, des tempêtes sont arrêtées. Il calme les tempêtes. Il calme des tempêtes à l'extérieur. Il calme des tempêtes à l'intérieur. Il apaise le mugissement dans les circonstances, mais aussi dans mon âme. Et puis, il y a une autre facette de la paix. Cette paix qui nous permet, qui nous a suffisamment fortifiés, pour que nous puissions ensuite dominer et régner, comme Pierre a marché sur la mer déchaînée, pour que nous puissions dominer sur les circonstances contraires. Une autre facette de la paix, elle s'exprime différemment. Il y a la paix que Dieu donne lorsqu'il exauce et que des tempêtes sont apaisées. Il y a une facette de la paix qui correspond aussi à ce moment où je vais dominer sur les éléments déchaînés. C'est aussi la paix. Et puis, il y a aussi cette facette de la paix, pas quand Dieu calme seulement l'extérieur, mais aussi quand Dieu dit, c'est Jésus qui le dit, je vous donne ma paix. Et la paix, c'est pas seulement quand Jésus a tout calmé à l'extérieur. La paix, c'est quand il a encore rien calmé à l'extérieur. C'est la troisième, le plus haut degré de paix. C'est cette paix qui est là, à l'intérieur, envers et contre tout. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix du monde, elle est alternative. Elle dépend des circonstances. Si tout va bien, je suis en paix. Si tout va mal, je prends des cachets. Si tout va bien, je suis en paix. Si tout va mal, je suis inquiet, etc., etc. Et c'est toujours alternatif. Et Dieu dit, Jésus dit, moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix, afin que ma paix en vous soit parfaite. Et David avait compris ça 1000 ans avant Jésus, sans la révélation totale que nous avons aujourd'hui. David avait compris ça. Et puis, l'assurance aussi. Verset 9, quand on a tout ça, regardez bien. Vous voyez comment David est logique. L'assurance de sa présence, l'assurance de sa toute-puissance, l'assurance d'être affermi intérieurement, l'assurance de sa paix, l'assurance d'une vie joyeuse. Parce que quand on a la paix, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Et avec la paix vient la joie. Quand j'ai pas d'inquiétude, je peux être naturellement joyeux. Tu remplis d'allégresse la terre, l'Orient et l'Occident. L'Orient, c'est là que le soleil se lève, je crois, à l'est. L'Occident, à l'ouest, c'est là que le soleil se couche, me semble-t-il. Et ça, ça désigne de l'Orient à l'Occident, ça désigne le lever jusqu'au coucher du soleil. David est en train de dire dans un langage imagé, avec tout ce que j'ai en lui, j'ai aussi l'assurance qu'il va me donner une vie joyeuse. Toi, Seigneur, ce n'est pas, encore une fois, les circonstances. Ce n'est pas ce que moi, je suis capable de faire ou de produire. Je ne fais pas semblant d'être joyeux. Par la grâce de Dieu, je suis profondément joyeux. Parce que la joie, bien-aimé, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas en fonction de ce qu'on m'a donné, de ce que j'ai reçu, de ce qu'on m'a fait ou de ce qu'on ne m'a pas fait. La joie, c'est une source. Tu mets, dit David dans le psaume 63, tu mets dans mon cœur, c'est toi Seigneur, même si ça ne va pas à l'extérieur, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mousse. C'est-à-dire que même s'ils ont beaucoup plus de bien que moi, Seigneur, moi je suis beaucoup plus heureux qu'eux. Parce que la joie ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais la joie c'est une source que Dieu a plantée dans mon cœur, par sa présence. Et cette joie ensuite, elle se manifeste. Et elle ne va pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais elle va de l'intérieur vers l'extérieur. Et la joie, elle déborde. Cette joie, tu remplis d'allégresse. C'est sa joie en nous. Je vous donne ma paix, dit Jésus, je ne vous donne pas comme le monde donne. Jésus dit aussi, je vous donne ma joie. C'est aussi dans l'évangile de Jean. Je vous donne ma joie, afin que ma joie en vous soit parfaite. Amen. Comme pour la paix, la joie est indépendante des circonstances. 9e et 10e point, l'assurance d'une provision inaltérable. Ici-bas, tout finit toujours d'une façon ou d'une autre par passer. Tout finit par se dessécher. Quoi qu'on fasse, peu importe le domaine, à différents moments, peu importe le domaine, peu importe les moments de l'histoire, il y a toujours eu des assèchements, il y a toujours eu des pénuries, il y a toujours eu des manques de ressources. Et là, David est conscient qu'en Dieu, il ne manquera jamais de rien. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, l'abondance. Tu comble de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et il est en train de dire avec ce langage imagé qu'il y aura toujours de Dieu pour ceux qui viennent dans sa présence, pour ceux qui viennent dans la prière, pour ceux qui ont foi, qui ont confiance, qui ont goûté à sa présence et qui vivent ce cheminement dans la prière avec Dieu. David est en train de leur dire, vous ne manquerez jamais, jamais de rien. Peu importe votre besoin, l'abondance auprès de lui, tu combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Merci Seigneur. Mais alors si le ruisseau de Dieu est plein d'eau, pourquoi est-ce qu'il y a des moments où je suis encore un peu sec? Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, le problème, ce n'est pas le ruisseau de Dieu. Le problème, c'est mon manque de soif. Le problème, ce n'est pas le ruisseau de Dieu. Le problème, c'est mon manque de soif. Mais si j'ai vraiment soif, et si j'ai vraiment compris, David, je vous le redis, 1000 ans avant Jésus-Christ, il n'a pas entendu cette parole de Jésus qui dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, Jean chapitre 7, jusque dans la vie éternelle. » Il dit ceci de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. David, 1000 ans avant, il n'avait pas entendu ça, David avait compris que le ruisseau de Dieu était plein d'eau et qu'il n'y aurait jamais de sécheresse dans son âme, par la présence de Dieu, à cause de cette provision inaltérable. Et puis, l'abondance, tu combles, il est plein d'eau, tes pas versent l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En réalité, quand David écrit ça, il a l'image, c'est vraiment ça, c'est ce qui se passait à l'époque, il a l'image d'une, on va dire, d'une charrette, d'accord, qui est remplie de bénédictions. Qui est rempli de mer, rempli de bénédictions, rempli de biens, rempli de richesses, mais qui est tellement pleine qu'au fur et à mesure qu'elle avance, c'est obligé, c'est inévitable, elle en perd. Et tous ceux qui suivent le Seigneur dans cette course triomphante, dans cette course de la foi, tous ceux qui suivent le Seigneur par la foi, parce que Dieu est un Dieu d'abondance, dans tous les sens du terme, c'est indispensable. De son royaume, vous avez compris, de sa charrette, parce que c'est l'image que David prend. Tes pas déversent l'abondance, si je le suis, je sais que forcément, il y aura toujours des retombées, des répercussions, des retombées sur moi, peu importe ce dont j'ai besoin. L'assurance, peu importe ton besoin, que tu ne manqueras jamais d'une provision inaltérable. tes pas vers l'abondance. Et le dernier point, l'assurance aussi de résultats sans précédent. Voilà aussi ce que nous avons comme assurance, ce qui est un moteur dans la prière. Lorsque je fais ce cheminement comme David dans la prière, au final, en ayant considéré tout ça, je me dis, Seigneur, c'est pas possible que ça marche pas. Ça peut pas rater, ça peut pas marcher, ça peut pas ne pas marcher, pardon. Il y aura pas de plan B. Avec le Seigneur, il n'y a que le plan A. Et son plan est parfait. Et quand on est dans cette dynamique spirituelle, dans cette dynamique de foi, de confiance et d'assurance dans la prière, c'est obligé. Le Seigneur me dit, tu vas voir des résultats. David me dit, tu vas voir des résultats comme jamais tu n'en as vu. Tu verras des résultats sans précédent. Oui, les miracles vont avoir lieu. Verset 10, tu fertilises. Il y a des terres arides, celles autant parfois dans nos cœurs d'enfants de Dieu que dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas à l'extérieur, des terres arides qui vont à nouveau être fertiles, qui vont être fécondes, et il va y avoir du fruit. On va porter du fruit, ils vont porter du fruit. Une terre aride, pardonnez-moi combien, je sais, c'est, on n'est pas dans une période de réveil en France. Les églises ont un mal fou à gagner 2-3 personnes. Vous en avez 2-3 qui se convertissent, 2-3 qui claquent la porte. Vous en avez 4 qui arrivent par mutation, 4 qui partent par mutation, sauf exception à part... Une église qui fait 200 membres, elle fait toujours 200 membres. Les églises qui font 500 membres font 500 membres. Les églises qui font 50 membres, ça fait 50 ans qu'elles font 50 membres. Il y a, excusez-moi, bon, c'est pas mon sujet. Il y a un sérieux problème. Quand l'église, quand les cœurs sont secs et qu'ils n'ont pas cette fécondité, cette fertilité, cette capacité de production et d'enfantement. Mais toi, Seigneur, tu fertilises. Au verset 13, les plaines du désert seront abreuvées. Le désert, les zones désertiques dans les cœurs, dans les vies, dans les églises, seront irriguées. Le désert de certaines âmes, pardon, vont pouvoir reverdir. Le désert de nombreuses églises vont pouvoir reverdir. Et il va y avoir une fertilité, une fécondité. Il va y avoir des obstacles, verset 11, qui seront aplanis. Il y aura des résultats. Tu fertilises, tu irrigues, verset 11, en aplanissant ses sillons, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Il n'y a, David me dit, oh, considère, il n'y a aucun obstacle sur ton chemin, sur ta route, que Dieu ne soit pas capable d'aplanir pour que tu puisses faire des conquêtes. Verset 14, merci Seigneur. Les pâturages se couvrent de brebis. Vous avez envie de voir plus de brebis sur les pâturages du royaume de Dieu? Amen. C'est ça que ça veut dire, des pâturages. Amen. Les pâturages se couvrent de brebis. Donc David, et les brebis c'est qui? C'est nous. Et David voit ça et il annonce. Les vallées se revêtent de froment. On est encore dans l'abondance, on est encore dans la productivité, on est encore dans la bénédiction, dans la fertilité, dans la fécondité, dans l'enfantement. Les vallées se revêtent de froment. Il y a une production, les pâturages se couvrent de brebis. Et par cette présence de Dieu, avec tous les bienfaits qui en découlent, on arrive naturellement à ce dixième et dernier point qui sont là dans ces versets, l'assurance de résultats sans précédent. Et le Seigneur me dit, David me dit, si tu vas, si tu suis ce chemin-là, si tu suis ce cheminement spirituel, tu auras nécessairement des résultats. Et tu verras dans ta vie, dans ton église, dans ton entourage, tu verras plus de brebis dans les temps qui viennent que tu n'en as jamais eu dans toutes les années passées. Et là, vous n'avez pas dit amen.
Ah, si, merci.
Alléluia. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai appelé le psaume 65, c'est pas dans vos Bibles, c'est moi, c'est mon interprétation. Psaume 65, j'ai appelé ça dans la prière le meilleur contrat d'assurance, le meilleur contrat de confiance de tous les temps. David ici m'a donné une trame logique qui m'enthousiasme, qui m'encourage et qui me donne envie de prier et d'aller encore plus loin dans la présence de Dieu et ne rien lâcher et de vivre toute sa visitation et toutes ses bénédictions. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Voilà, on va prier particulièrement. Vous avez des sujets sur vos cœurs. Bien